18h30, 19h, La Sologne, terre d'identité et de qualité, le magazine éco-innovation en Grande-Sologne sur Méga FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans La Sologne, terre d'identité et de qualité, le magazine éco-innovation de Méga FM en partenariat avec le syndicat mixte du pays de Grande-Sologne. Ce soir, c'est au cœur du grand projet ferroviaire Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon que nous allons nous plonger. Présenté comme un nouveau maillon structurant du réseau ferré national, devant permettre la desserte à grande vitesse de 13 villes entre Paris et Lyon, ce vaste projet ne cesse de faire couler de l'encre, notamment concernant le choix du tracé et de son impact environnemental, humain et économique. Nous reviendrons donc ce soir sur ces impacts, sur la participation active du syndicat mixte du pays de Grande-Sologne aux concertations avec Réseau Ferré de France, et nous entendrons les différents témoignages de nos invités. Autour de cette table ce soir, Constance de Pellichy, maire de La Ferté-Saint-Aubin et première vice-présidente de la communauté de communes du canton de La Ferté-Saint-Aubin. Olivier Pavie, maire de Salbris et président de la communauté de communes Sologne des Rivières. Pascal Bioulac, maire de La Motte-Beuvron et premier vice-président de la communauté de communes Cœur de Sologne. Et Patrice Martin-Lalande, président du syndicat mixte du pays de Grande-Sologne, député du Loir-et-Cher et premier vice-président du conseil général. Messieurs, dames, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on va commencer tout de suite avec vous, monsieur Martin-Lalande, et puis vous, monsieur Pavie, pour cette première partie, avec peut-être un rappel de ce qu'est cette ligne à grande vitesse, POCL, dans l'abréviation, en fait.
POC.
C'est ça. Alors, on peut peut-être rappeler un petit peu, voilà, ces différents tracés, ce que ça va pouvoir impacter, et le rappel un peu du contexte avec vous, monsieur Martin-Lalande.
Oui. Alors, au plan national, on a besoin de trouver un doublement de la ligne Paris-Lyon, qui est un succès fantastique, mais qui est presque saturé, ou qui va le devenir, en tout cas, à échéance assez rapprochée. Et naturellement, construire une deuxième ligne exactement à côté de la première, ce serait coûteux, et ça ne rapporterait rien en termes d'aménagement du territoire, alors que la construire, cette deuxième ligne, en desservant d'autres parties du territoire national, on ne peut être que d'accord avec cette idée-là. Mm-hmm. C'est une nécessité, c'est une bonne utilisation. Simplement, il y a plusieurs tracés possibles. Il y en a un qui passe complètement sur la Sologne, le tracé ouest, et un autre qui s'appelle le tracé médian, et qui passe un peu plus à l'est. Naturellement, en Sologne, nous sommes très sensibles aux inconvénients, et nous aurions été sensibles aux avantages, mais on les cherche, du passage éventuel sur la Sologne.
Quand vous parlez d'avantages, c'est-à-dire qu'en fait, théoriquement, il n'y a pas de desserte sur des villes sur le territoire de la Sologne.
Si le projet se faisait en Sologne, on traverse sur 70 km du nord au sud la Sologne, sans qu'il y ait
aucun arrêt,
puisque les arrêts se feront à la gare de Fleury-les-Aubrais, qui serait la gare TGV, qui sera, parce que la ligne passera d'une manière ou d'une autre à côté d'Orléans, l'autre gare étant celle de Vierzon, puis après ça, le reste de la ligne. Mais donc, la desserte ne change en rien pour la Sologne si ça passe sur la Sologne. En revanche, 70 km de coupure qui passent sur des zones sensibles pour l'économie, pour l'habitat, et au point de vue environnemental aussi, nous sommes en pleine zone Natura 2000, plus un tracé qui passe sur l'agglomération orléanaise, beaucoup plus avec le tracé ouest qu'avec le tracé médian, et qui devra franchir la Loire dans le périmètre classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Véritablement, il y a beaucoup de handicaps, et c'est la raison de notre mobilisation à tous.
Alors, je me tourne vers vous, monsieur Pavie. Cette ligne à grande vitesse passerait par Salbris?
Alors c'est ce que j'ai appris, c'est le plaisir que l'on a lorsqu'on est nouvellement élu, c'est de découvrir certains dossiers et notamment de voir qu'il y a un projet de ligne à grande vitesse, donc LGV ou TGV, sur sa commune. Mmh. Alors c'est toujours intéressant parce qu'on se dit pourquoi pas une gare chez nous. C'est ce que se demande un certain nombre d'ailleurs de Salbrisiens. Mais après quand on regarde le dossier, j'irai la réalité est tout à fait autre.
Parce que actuellement sur Salbris, y a-t-il une desserte déjà existante? Il y a une gare à Salbris?
Alors, il y a une gare à Salbris, une gare qui a une utilité et une importance, puisqu'on est sur la ligne entre Orléans et Vierzon, le seul point où nous avons des trains directs pour Paris. C'est-à-dire que les trains s'arrêtent à Salbris, ils desservent ensuite Romorantin par la liaison du BA, et ce qui fait qu'on en a des trains qui mettent 1h25 de gare à gare entre Salbris et Paris. Ce qui est important pour l'emploi, puisqu'on a un certain nombre de personnes qui résident à Salbris, mm-hmm. parce que justement elles peuvent faire l'aller-retour dans la journée et travailler à Paris.
Okay.
Donc c'est vrai qu'une ligne TGV ou LGV est intéressante, mais comme le disait Patrice Martin-Lalande, à condition qu'on y trouve des avantages.
Mm-hmm.
Or la question, moi j'ai découvert, enfin la question se pose, j'ai découvert justement aussi la délibération du conseil municipal précédent sur le sujet. Au départ, je pense qu'ils n'avaient pas regardé le dossier suffisamment de manière approfondie, parce qu'ils étaient pour cette ligne. Et puis après, à la réflexion, ils se sont aperçus que compte tenu qu'il n'y aurait pas de desserte et pas de gare, eh bien, ils ont inversé leur position. Alors, donc aujourd'hui, c'est vrai que la ligne Sologne poserait des problèmes à la commune de Salbris, puisque elle risquerait de passer sur le site Etamat, donc sur l'établissement militaire, donc ce qui serait nous un énorme inconvénient, parce que à terme, si évidemment si ce site était condamné, aujourd'hui c'est 134 personnes qui travaillent donc sur ce site, donc quel serait le devenir donc de cet établissement militaire, et puis pas d'arrêt, pas de gare, donc quel avantage, il n'y a dans ces cas-là que des nuisances pour la commune. Et on sait très bien que lorsque ce type de projet est en cours, il y a une appréhension des populations, et donc on bloque dans ces cas-là les marchés, à la fois le développement économique, parce que évidemment les professionnels sont en attente d'eux, ou on dit mais nous on voit bien, mais on s'implanter mais à condition. Donc on attend la réponse. Et puis l'autre difficulté, c'est qu'on est quand même dans un secteur touristique et surtout un site de résidence secondaire et de chasse. Et là, les propriétaires actuels, bien sûr, sont déjà inquiets. S'ils souhaitent vendre, quelle est la valeur donc de leur propriété et de leur bien immobilier? Et pour les acquéreurs, est-ce que l'on achète s'il y a une telle nuisance? Et est-ce que l'on achète si c'est desservi? Donc, vous voyez que on a quand même un certain nombre de questions qui se posent avant de pouvoir prendre une décision, cohérente sur le sujet. C'est la raison pour laquelle on attend justement des informations complémentaires donc sur ce tracé qui permettra donc à la ville de se positionner. Et moi, je demanderai à mon conseil municipal, évidemment, donc de réexaminer dans les prochaines semaines ce dossier pour avoir un positionnement sur le fond.
Ceci dit, il y a des arguments forts là pour le coup.
Oui, ah bah tout à fait.
On est quand même sur quelque chose. Enfin, les trois domaines, les trois dimensions, oui. À la fois environnementale, humaine, économique et du coup même la quatrième, touristique. C'est
exactement.
Quand même des points forts.
Ah, tout à fait. Et puis comme M. Martin Lalande le rappelait, on est dans une zone Natura 2000. Aujourd'hui, on est consulté dans le cadre de la communauté de communes sur le schéma régional de cohérence écologique, c'est-à-dire la mise en place des trams bleus et des trams vertes dans notre secteur. Et parallèlement à ça, on nous dit, on va avoir 70 km donc, de ligne TGV ou LGV qui va passer dans le secteur, et notamment sur ma communauté de communes.
Est
la cohérence?
Voilà, justement, parlons de cette cohérence, ouais. Et vous souviez tram bleu, tram verte. Est-ce qu'on peut préciser pour les auditeurs en quoi ça consiste?
Ce sont des servitudes écologiques. Alors servitudes au sens j'irénome, parce qu'en fin de compte, on fige un certain nombre de secteurs dans la continuité pour justement préserver à la fois la qualité environnementale des zones humides ou des zones boisées pendant un certain temps. Et donc on engage les propriétaires sur plusieurs générations, ce sont des engagements sur du long terme, justement, à préserver l'espace environnemental.
Mmh. Oui, donc on parle de cohérence, si on demande aux propriétaires de conserver sur du long terme leur territoire, et qu'à partir de là, il y a un tracé qui vient tout dénaturer, on peut comprendre qu'effectivement, on nage un peu en pleine incohérence.
Exactement.
Complètement. Par rapport à vous, Monsieur Martin Lalande, Natura 2000, vous portez cette appellation-là. Vous battez pour que ce site soit le plus préservé possible. C'est 70 km de tronçons, c'est aussi des clôtures en plus, forcément. Et donc, on parlait justement des trams bleus ou verts. Ça veut dire aussi la migration des grands animaux, par exemple, qui seraient complètement perturbés.
Oui, c'est vrai. Ce projet est complètement contraire à Natura 2000. D'ailleurs, je pense qu'au point de vue juridique, il serait hautement contestable, y compris au plan européen, et donc ce serait une fragilité du projet supplémentaire. Mais naturellement, les problèmes de passage du grand gibier, c'est important. Mais moi, je vois aussi le problème de l'activité économique. Par exemple, nous sommes à la Motte Beuvron. À côté de moi, Pascal Bioulac pourra en parler mieux que moi. Mais nous avons le parc équestre de la Fédération française d'équitation, qui est un des plus grands parcs du monde dans le domaine équestre, qui réunit plus d'un million de personnes par an et qui serait traversé par la ligne en question. Même chose sur d'autres communes, pour les zones d'activité, pour les zones d'habitation, pour les zones de développement de toutes nos communes sur 70 kilomètres. Donc ça serait tout à fait dramatique. Et en plus de ça, nous avons la certitude que le bénéfice pour la collectivité serait plus grand avec le tracé médian, puisque ça permettrait de desservir Gien et de passer dans une zone qui est moins sensible, encore une fois, la traversée de la Loire, l'agglomération orléanaise, plus 70 kilomètres de Sologne. Véritablement, il y a tout ce qu'il faut pour, nous l'espérons fort, avoir un choix différent et choisir le tracé médian. D'ailleurs, les choses vont se faire rapidement, puisqu'à la fin de cette année, le ministre des Transports doit, avec le gouvernement, trancher et choisir un des deux sites. Moi, je l'avais demandé l'année dernière à l'Assemblée nationale, qu'on ne laisse pas une épée de Damoclès sur nos têtes en ayant deux sites entre lesquels le choix serait fait dans quelques années. Il faut faire le choix maintenant d'un des deux sites, d'un des deux tracés, de façon à ce que, on libère de toute hypothèque l'autre tracé, qu'on puisse continuer une vie normale en attendant les réalisations du projet qui n'est pas prévu pour avant 2030, sauf accélération de la saturation de la ligne Paris-Lyon actuelle de TGV.
Donc nous verrons en deuxième partie, hein, si vous voulez bien, les voilà toutes les actions quand même qui sont menées par vous, Monsieur Martin Lalande, et voilà et par les différents acteurs effectivement des différentes communes qui sont concernées par ce problème. Je vous propose de marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de cette émission.
18h30, 19h, le magazine Éco-Innovation en Grande-Sologne sur Méga FM.
Suite de l'émission La Sologne, terre d'identité et de qualité, consacrée ce soir au projet de ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon. Donc nous avons fait un petit peu le rappel du contexte dans lequel ce projet ferroviaire va voir le jour à l'aube de 2030. Et on va poursuivre cette émission avec nos deux autres invités, Constance de Pellichy, maire de La Ferté-Saint-Aubin, et Pascal Bioulac, maire de La Motte-Beuvron, avec toujours effectivement notre invité également, Patrice Martin Lalande. Monsieur Bioulac, Constance de Pellichy, un point commun nouvellement élu sur vos communes respectives, La Motte-Beuvron et La Ferté-Saint-Aubin, avec effectivement ce projet en cours que vous devez poursuivre.
Tout à fait, Constance. Bonsoir et merci beaucoup pour votre invitation. C'est un projet dont on hérite et sur lequel je ne partage pas tout à fait les mêmes points de vue que mon prédécesseur. Il faut savoir que le conseil municipal de La Ferté-Saint-Aubin n'a jamais délibéré à proprement parler contre le projet de tracé ouest, que bien au contraire, une délibération a été prise pour rappeler l'importance du projet ferroviaire. Et je crois que là-dessus, mon prédécesseur a manqué cruellement de courage pour défendre la ruralité et l'identité de notre territoire. Ce tracé dénaturerait complètement la commune de La Ferté-Saint-Aubin en la traversant presque par le milieu. On a déjà des coupures qui sont celles de la voie de TER, qui sont celles de l'autoroute, qui entravent très largement notre développement économique. Si on se rajoute en plus la coupure de cette LGV qui serait a priori infranchissable, je ne vois pas quelle perspective de développement économique nous pouvons avoir sur La Ferté-Saint-Aubin.
Alors peut-être existe-t-il, il y a un moment donné, il avait été question de suivre le tracé de l'autoroute pour y accoler en fait la ligne de chemin de fer, la ligne à grande vitesse, Monsieur Martin. Non, je ne pense pas me tromper.
Juste un mot, oui c'est possible sur 10 kilomètres.
D'accord.
Il y en a 70. Donc il y en a 60. Simplement parce qu'on roule pas les mêmes courbes quand on roule à 360 km/h et quand on roule à 130. Et donc naturellement le tracé ne peut pas coller à une autoroute qui
Et ces 10 km ne seraient pas contigus à La Ferté-Saint-Aubin par exemple, non, c'est pas possible.
Je sais plus trop où ils sont situés, je suis pas sûr d'ailleurs qu'ils soient en continu les 10 km et de toute façon c'est 10 sur 70, c'est-à-dire 60 km, il y aura véritablement une grande un grand territoire sacrifié entre la voie ferrée, l'autoroute actuelle et la future éventuelle loi ligne à grande vitesse.
Donc du coup, par rapport à la Ferté-Saint-Aubin, l'impact, ce qu'on disait aussi avec Monsieur Pavy en première partie à l'émission concernant Salbris, un impact économique aussi. Quelle entreprise pourrait être impactée sur la Ferté-Saint-Aubin, par exemple?
La principale entreprise qui pourrait être impactée est Thalès Armement, qui a un très gros site sur la Ferté-Saint-Aubin, un site très important en termes d'emploi, puisque ce sont plusieurs centaines d'emplois. Donc là, effectivement, il y a, on va dire, un handicap direct. Et puis, notre zone d'activité est aujourd'hui à l'ouest de la Ferté-Saint-Aubin. Tous les lots n'ont pas encore été commercialisés. Vous vous mettez à la place d'un entrepreneur. Est-ce que vous allez acheter un terrain sans savoir s'il va pas être coupé par une LGV?
La fameuse épée de Damoclès dont parlait Monsieur Pavy.
Tout à fait. Et cette épée de Damoclès, je rejoins tout à fait Monsieur Martin Lalande sur le fait qu'il faut absolument se décider sur le tracé. Parce que quand vous avez quelque chose d'hypothétique, tout se fige. Alors que lorsqu'on a pris une décision, il y a des perspectives de développement dans les deux sens. Autant pour ceux qui savent qu'il va y avoir un tracé de LGV, dans ces cas-là, on prend une direction pour le développement, et pour ceux qui savent que finalement, rien ne se construira. Et aujourd'hui, dans le Loiret, le fait d'avoir deux tracés qui sont sélectionnés, ça fige la moitié du département.
Alors, on parlait du côté économique, du côté humain aussi, le développement notamment des lotissements, l'immobilier forcément et se retrouve dans l'attente.
Il y a la question du bâti qui se retrouve dans l'attente, tout à fait. Pour moi, il y a aussi une question importante sur la Ferté-Saint-Aubin notamment, c'est la question touristique. Le tourisme en Sologne, c'est la qualité de notre vie sauvage, ce sont les grands animaux, c'est la chasse, qui est aussi un élément économique et touristique très important dans nos territoires. Qu'est-ce qui va se passer, surtout avec les délaissés? Comme je vous le disais au début de l'intervention, il y a la voie de chemin de fer, il y a l'autoroute. Le fait de rajouter en plus cette LGV va constituer des très grands délaissés sur la Ferté-Saint-Aubin.
Qu'est-ce qu'on appelle un délaissé?
C'est cet espace dont on ne peut plus rien faire, qui se trouve entre la voie de chemin de fer ou l'autoroute et la LGV quand on essaye de coller le plus possible. Donc c'est comme une berne centrale très large que vous avez sur l'autoroute, mais en beaucoup plus grand, plusieurs hectares, dont on ne peut rien faire, c'est laissé complètement à l'abandon. Le gibier est piégé, il n'y a plus de prédateurs naturels, donc ça peut aussi causer des dégâts importants, créer des accidents. Un sanglier sur une voie de chemin de fer, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Et en même temps, c'est tout le territoire autour qui perd énormément de sa valeur, à la fois écologique et économique.
C'est un peu le cri du cœur, là.
Ah oui,
on ressent un peu comme ça.
Oui, non, bien sûr, le conseil municipal de la Ferté-Saint-Aubin se prononcera d'ici à l'été sur ce projet.
Et alors du côté de La Motte-Beuvron, avec vous, Pascal Bulac, avant d'être maire de La Motte-Beuvron, vous étiez directeur du centre équestre, centre fédéral de La Motte-Beuvron. Forcément, comme l'avait dit Monsieur Martin Lalande précédemment, largement impacté, puisque traversé quasiment de part en part.
Tracé. Tout à fait. Bonsoir d'abord, merci de votre invitation et heureux de participer à ce débat. Moi je suis pas tout à fait pour ce projet pour plusieurs raisons. D'abord c'est un fabuleux outil, comme le rappelait tout à l'heure en début d'intervention Patrice Martin-Lalande, parce que ça permet de désenclaver des zones, mais faut que ça désenclave réellement des zones. Or là on est sur un dédoublement de voies de lignes à grande vitesse Paris-Lyon qui vient impacter nos territoires ruraux très fort. Alors d'abord une première réaction localement sur La Motte-Beuvron, c'est l'endroit où le tracé ou le couloir prévisionnel de traversée de la Sologne est le plus étroit entre l'autoroute et la voie ferrée sur à peu près 4-5 kilomètres. Et c'est l'endroit où ils traversent, comme le rappelait Patrice Martin-Lalande tout à l'heure, de part en part, donc du sud au nord, le parc équestre fédéral, qui est un outil fabuleux, puisque la Fédération française d'équitation, troisième fédération nationale, a choisi d'y installer son siège administratif et social. C'est 145 emplois à l'année, c'est 1 million de visiteurs. Et donc c'est un outil économique fabuleux. Donc effectivement, s'il est coupé en deux, je vois mal la Fédération française d'équitation se servir de la ligne LGV POC comme un obstacle, si on pourrait appeler ça comme ça, avec une grande cicatrice en plein milieu, et comme le rappelait Patrice Martin-Lalande, une cicatrice de 70 km de long sur notre fabuleux territoire de Sologne.
Qui ne sera pas prête de se refermer.
Et qui ne sera pas prête de se refermer, et qui n'apportera rien à la Sologne. Au contraire de l'autoroute qui dessert la Sologne parfaitement avec plusieurs sorties, ou la voie actuelle SNCF qui dessert, comme le rappelait tout à l'heure Olivier Pavy, directement la Sologne avec Paris, mais qui dessert aussi plusieurs gares, dont la Ferté-Saint-Aubin, dont la Motte-Beuvron, et qui permet d'être déjà bien relié aux grandes villes. Au contraire de la LGV POC, qui ne s'arrêtera pas du tout en Sologne, puisque même Orléans ne sera pas sur cette ligne-là, et Orléans, on rejoindra Paris par une voie indirecte pour prendre un train direct pour aller plus vite à Lyon ou à Marseille. Et moi, je suis profondément contre... avec une autre étiquette qui est celle du syndicaliste agricole, parce que comme le rappelait Constance, maire de la Ferté-Saint-Aubin, effectivement il va y avoir beaucoup de délaissés, et c'est encore une fois les territoires ruraux qui vont payer un lourd tribut au rapprochement des grandes cités que sont Paris, Lyon et Marseille, tout ça pour que la SNCF puisse concurrencer les transports aériens. Et une fois de plus, on peut que se révolter en tant que habitant des territoires ruraux d'avoir fait ce choix de vie, d'y vivre, de les développer au quotidien, et en tant qu'agriculteur, puisqu'on va avoir beaucoup de délaissés, et c'est encore une fois des mitages de terres agricoles qui sont importants. Il faut rappeler quand même que l'agriculture perd tous les ans en France la valeur d'un département au travers de ces grands aménagements et de ces impacts, qui peuvent être réfléchis différemment et mieux étudiés. Et là, on a alors nous, à la Motte-Beuvron, le conseil municipal s'était prononcé contre, mais avec un maire au dernier moment, et avec un maire qui s'est prononcé pour en tant que conseiller régional. Alors, une ambiguïté un peu particulière, et moi, je partage pas du tout cet avis que la région va en tirer un grand bénéfice, parce que on ne sera pas relié directement à la grande ligne LGV POC, et je trouve que les territoires ruraux vont encore payer très cher la note.
Et alors, du coup, la question est, si il y avait eu dans les différents scénarios proposés par Réseau Ferré de France, une ou plusieurs dessertes sur le territoire de la Sologne, est-ce que la vision du coup du tracé aurait été différente, selon vous, Monsieur Martin Lalande?
Très franchement, ça dépend de l'intensité de la desserte, mais on est desservi quand même en Sologne par Orléans-les-Aubrais, dans le futur projet de tracé qu'on espère être médian, et par Vierzon. Donc on n'est pas complètement à l'écart. On va être desservi aux deux extrémités de notre ligne Orléans-Vierzon.
Mais purement sur le tracé, les 70 km
franchement, il aurait fallu regarder l'impact réel, parce que vous savez, avoir un arrêt, mais combien de fois par jour, avec quelle intensité par rapport à Paris et par rapport à Lyon. La question ne se pose pas, de toute façon. Il n'y aura pas de nouvelle gare. Ce sera celle de Fleury-les-Aubrais pour Orléans, à celle de Vierzon pour Vierzon. Et donc, en revanche, le tracé médian permettrait, du côté de Gien et de Briard, d'avoir une meilleure couverture du territoire du Loiret, comme le disait Madame le maire de la Ferté-Saint-Aubin tout à l'heure. Et je crois que c'est d'ailleurs un des acquis importants du débat qui a eu lieu depuis 2 ans, les études complémentaires qui ont été menées, que d'avoir précisé cette possibilité-là qui n'était pas dans la tête des élus du Loiret lorsqu'ils ont été amenés à se prononcer. Je trouve qu'il est bien que, comme cela a été dit tout à l'heure, les collectivités, à l'issue du débat, fassent un travail de constat de ce qu'a apporté le débat et de définition d'une position qui tienne compte de tout ce qui a pu être engrangé comme information, comme certitude, qu'on n'avait pas au départ.
Et alors, concrètement, les différentes actions menées pour justement mobiliser à la fois bien les collectivités et puis aussi certainement les habitants. Il y a une pétition en ligne
qui est tout à fait
possible de rejoindre. On peut signer
plus de 1300 signatures. Vivement conseillé d'y aller sur le site du pays de Grande Sologne. Et je ne doute pas que les maires et présidents de communautés de communes concernées peuvent aussi la relayer sur leurs sites communaux ou intercommunaux. Nous allons faire une réunion, on en a parlé tout à l'heure, avec les maires ici présents à la mi-juin pour faire un bilan de ce travail de 2 ans qui a été vraiment bien mené avec un débat bien encadré, bien mené par le conseil chargé d'organiser les débats publics en France, par RFF. Et donc nous allons faire une réunion avec l'ensemble des élus pour que l'ensemble des élus de Sologne, les 70 kilomètres de tracé éventuel, puissent disposer des dernières informations et se prononcer en connaissance de cause. Je suis convaincu que tout le monde sera favorable au tracé médian, et ayant pris conscience des effets très négatifs et même insupportables pour la Sologne du tracé ouest.
On voit bien effectivement par rapport aux différents témoignages qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Ça, on l'aura bien compris. Alors,
on cherche même les avantages.
Et on les cherche, en plus.
Alors, non seulement pour la Sologne, mais pardonnez-moi d'insister aussi, parce que Orléans, c'est quand même, l'agglomération Orléans, c'est pas loin de 300 000 habitants. Mmh. Et c'est l'agglomération qui va être impactée beaucoup plus lourdement par le tracé ouest que par le tracé est, qui par définition la contourne.
La contourne.
Donc c'est la Sologne et l'agglomération orléanaise qui sont toutes les deux directement concernées par ce choix, avec un choix lourd pour le tracé ouest et un choix beaucoup plus acceptable pour le tracé médian.
Donc là, on sent bien que les positions donc contre le tracé ouest et pour le tracé médian, on sent le consensus en tout cas. Donc pour ça, pas trop de difficultés après à rapporter effectivement à Réseau Ferré de France pour que ce soit positionné. Mais le projet, lui, doit voir le jour théoriquement en 2030. Donc c'est à la fois demain, c'est à la fois encore dans quelques années. Est-ce que les positions d'aujourd'hui, comment être sûr que les positions d'aujourd'hui seront celles de demain encore ? Est-ce qu'une fois que la décision, enfin vos décisions, vos positions à tous auront été apportées, est-ce qu'elles ne seront pas révisables ?
Alors, une fois que le tracé aura été retenu, l'un ou l'autre, ce sera à la fin de cette année. Le gouvernement s'y est engagé et on va veiller à ce qu'il tienne son engagement sur ce terrain-là au moins. Et donc, il y aura après ça toute une procédure qui va se mettre en place, une nouvelle procédure qu'on appelle les études préalables à l'enquête publique. Les études préalables à l'enquête publique, elles prennent 7 à 10 années. 7 à 10 années. Et après ça, il y aura une enquête publique sur le détail du passage de la ligne dans le fuseau qui aura été retenu. S'il apparaissait au cours de cette enquête publique et des études préalables qu'il y ait des éléments nouveaux qui rendent impossible le maintien du choix de tracé, par définition, il serait à remettre en cause. Mais autrement, on ne voit pas comment, une fois que le tracé a été retenu, s'il n'y a pas d'éléments nouveaux nécessitant une révision de la décision, on pourrait, au gré des caprices politiques ou autres, remettre en cause cela.
D'accord.
Donc c'est important qu'on se mobilise maintenant pour que, au moment où la concertation va reprendre, c'est-à-dire en mois de juillet, au niveau national, pour décision à la fin de cette année, tous les éléments soient sur la table et que la position des collectivités soit bien claire, plus qu'elle ne l'a été, notamment à la Ferté-Saint-Aubin, à la Motte-Beuvron et dans quelques autres communes, et à Salbris, bien clairement établie. Je me réjouis que le Conseil général de Loire-et-Cher ait complètement révisé sa position à l'issue des débats et des études qui ont été menées pour, à l'unanimité, se prononcer pour le tracé médian et contre le tracé ouest, y compris les Blaisois, qui étaient très sensibles à la bonne desserte de l'agglomération de Blois, qui sera meilleure avec le tracé médian qu'avec le tracé ouest.
Donc là, on peut se dire que l'échéance fin 2014, c'est un peu la fin de l'épée de Damoclès.
Oui.
Quel que soit le choix, mais en attendant, c'est la
fin
de l'épée de Damoclès.
On saura à quelle sauce on est mangé.
C'est ça. Et alors, vous disiez juste après, pour clore cette émission, l'hypersaturation de la ligne existante entre Paris et Lyon risquerait peut-être d'avancer un petit peu les choses. Est-ce que c'est une certitude ? Est-ce que...
Ah ben non, par définition, c'est pas une certitude, parce que le gouvernement, et je crois que c'est sage, il soutient pas toujours le gouvernement, mais quand il est sage, je le fais. Donc je le fais en l'occurrence, a prévu qu'il y aurait un observatoire de la saturation, c'est-à-dire un suivi de l'évolution de cette ligne, et que si ça allait plus vite que ça n'est prévisible pour l'instant, ça pourrait être avancer la réalisation de la ligne, ne pas attendre 2030, mais à faire ça 2 ou 3 ans plus tôt, d'où les délais des études qui pourraient être lancées à la fin de cette année, de 7 à 10 ans, vous voyez, on évite près de 2027 ou 2028.
Ça peut aller très très vite. Ah, donc, oui. En gros, mobilisons-nous.
Exactement.
C'est ça. Ce sera
pour la Sologne, pour notre qualité de vie, et même dans l'intérêt de l'agglomération orléanaise, j'insiste là-dessus, il y a un tracé qui est véritablement très pénalisant. Nous sommes solidaires de l'agglomération et nous espérons qu'ensemble, nous allons gagner.
Eh bien, écoutez, affaire à suivre en tout cas. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur notre site www.megafm.fr ainsi que sur le site du syndicat mixte du pays de Grande-Sologne. Excellente soirée à tous à l'écoute de Mega FM.
Bonsoir.
C'était La Sologne, terre d'identité et de qualité, le magazine éco-innovation en Grande-Sologne de Mega FM.